Bien, je vais commencer. À l'issue de certains cours, des cours qui ont déjà eu lieu, certains d'entre vous ont bien voulu venir me trouver pour me présenter des observations, des informations, des compléments sur ce qui a été dit. Alors j'estime que ceci, naturellement, est une pratique très productive dans la mesure où elle n'est pas processive, mais coopérative. Ce cours, surtout avec son découpage en traits, en figures, je dirais que c'est un peu comme un damier de cases, bref, comme une topique. Mon rôle est de poser des cases autour d'un thème et puis de commencer à les remplir plus ou moins, mais il va de soi que les cases peuvent être remplies par d'autres, en particulier par vous. Alors, je vais essayer, chaque fois que il y aura lieu, de rapporter au début de chaque cours les observations faites sur le cours précédent, pour autant qu'elles seront complémentaires. Ce sera, si vous voulez, une sorte de courrier des auditeurs. Alors, on m'a fait les observations suivantes, ou les compléments suivants que je vous transmets, et qui me paraissent très utiles. D'abord, une petite question, j'avais demandé, ou je m'étais demandé pourquoi le mot « idiorythmie » s'écrivait avec deux R. J'avais supposé, à tort, mais en sachant au fond que c'était à tort, que le doublement de l'air venait d'une assimilation de l'ess de « idios », mais ça ne me paraissait pas satisfaisant. En réalité, on m'a fait remarquer, et c'est juste que cet S qui s'est transformé en un second R vient tout simplement de l'aspiration du rho initial dans rhythmos. J'avais dit que je ne connaissais pas de roman de l'idiorythmie. On m'a fait remarquer, et je pense que c'est juste, que les affinités électives de Goethe pourraient être considérées comme un tel roman, et aussi un roman de Simone Jacquemart que je ne connais pas et dont je n'ai pas retenu le titre. Quant au mot « assez dit », qui est le premier trait dont j'ai parlé la dernière fois, on m'a fait les deux remarques suivantes. J'ai parlé de point mort, l'assez dit comme état, une sorte d'état de point mort, et j'ai cité le héros de la montagne magique, Hans Castorp. On me fait remarquer très justement que le narrateur de la recherche du temps perdu connaît lui aussi un point mort très important, c'est ce qui se situe juste avant le temps retrouvé, au début du temps retrouvé, lorsque, après une interruption où le narrateur va dans différentes maisons de santé, il revient à Paris, et dans le train qui le ramène à Paris, il connaît un moment de désolation intense, qui est vraiment un moment d'assédie, tel que je l'ai essayé de le décrire. C'est le moment où il comprend qu'il n'est pas doué pour écrire, et que donc, en quelque sorte, il doit désinvestir de l'écriture. Et c'est l'assédie dans toute son horreur, quand effectivement un être a cru qu'il était fait pour écrire ou qu'il voulait écrire toute sa vie, toute sa jeunesse, et puis que tout d'un coup, il comprend que non, il n'est pas fait pour cela et qu'il doit désinvestir. C'est l'assédie dans toute sa pureté. Mais vous savez que dans la recherche du temps, dans le temps retrouvé, il y a un retournement miraculeux, et que c'est précisément en allant un peu par habitude, et parce qu'il sait justement que puisqu'il n'écrira plus, ce n'est plus la peine qu'il se retire du monde, il va à la matinée Guermantes, que à la suite d'incidents mystérieux et miraculeux, il retrouve le sens de l'écriture. Voilà pour la première remarque sur la CEDI. La seconde est plus technique, c'est que on m'a fait remarquer que Kedeia, en grec, ancien et moderne, voulait dire aussi, outre les sens que j'ai indiqués, voulait dire aussi enterrement. Par conséquent, akedeia, C'est un deuil sans enterrement, un deuil sans objet. Et j'ai dit en effet que c'était le deuil du sentiment plus que de l'objet. C'est en cela que la cédille est un état extrêmement douloureux, puisque dans la cédille, on éprouve le deuil du sentiment lui-même et non pas de l'objet du sentiment. Et en effet, le comble de la désolation pour le symbolique humain, nous le savons depuis longtemps, c'est la mort sans sépulture, akedeia. Et ça serait ça, la cédille. Comme j'ai dit, le déchet sans poubelle. Voilà donc ce que je voulais rajouter au cours passé. Alors, je poursuis donc la revue de ces traits qui nous permettent de planer un peu en tournant autour du vivre ensemble idiorythmique. Et je rencontre ici encore un mot grec, c'est le hasard de l'alphabet, c'est l'anachorèse, anachorésis, qui est formé du préfixe ana, qui indique l'éloignement, mais de bas en haut, n'est-ce pas, contrairement à kata, qui est de haut en bas, dans catastrophe par exemple. Ana, c'est en remontant, et korein, qui veut dire aller. Donc, ana korein, ça veut dire remonter au loin, aller au loin dans un mouvement de remontée. L'anachorèse, c'est donc un acte ou un état ou un concept, comme les mots en six, de séparation d'avec le monde par une remontée vers un lointain profond, intime et secret. Quelques mots, disons, pour aborder historiquement la notion. L'inclination à la retraite, c'est-à-dire l'anachorèse proprement dite, l'éloignement loin de la ville ou des villes, existait déjà chez les païens. Mais évidemment, le mot a pris un sens extrêmement précis dans les débuts du christianisme. L'anachorète, c'est celui qui fait profession de se retirer du monde. Il devient l'habitant d'une cabane ou d'une cellule, kélion, dans laquelle, dépendant ou non d'un couvent ou d'une laure, il vit seul ou avec un ou deux frères. Par conséquent, l'anachorèse ne réfère pas forcément à une solitude absolue, mais plutôt à ceci, à une sorte de raréfaction des contacts avec le monde, dans un esprit, disons, qui reste toujours individualiste. L'éloignement du monde, oui, il y a eu, on le sait, une sorte de flambée d'anachorèse à la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle, dont évidemment le témoin exemplaire est Antoine, saint Antoine, qui a d'abord vécu en ermite dans des tombeaux des pharaons, puis qui s'est éloigné dans des montagnes d'Égypte. Cette flambée d'anachorèse, elle est liée évidemment à une conception religieuse, mais elle est liée aussi, semble-t-il, à des contraintes civiles. En général, souvent, en tout cas, l'anachorèse correspond ou coïncide avec une fuite du sujet loin de l'État, loin des contraintes et de l'emprise de l'État. C'est pour échapper à l'État, pour échapper au fisc, pour échapper au service militaire, que l'anachorèse se produit, ou plus subtilement, lorsqu'un sujet éprouve un besoin d'indépendance, un besoin de raréfaction par rapport aux contacts sociaux, la nécessité de se protéger des contacts sociaux, ce qu'on peut très bien comprendre, car le contact social peut être ressenti comme une fatigue très lourde. Les anachorètes, donc, chaque anachorète se gouverne comme il l'entend, c'est-à-dire qu'il a tout un régime de prière individuelle, privée, plus en général l'exercice d'un travail manuel En Égypte, c'était de la vannerie, du tissage, des nattes, avec psalmodie. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'anachorèse, comme terme générique, ne coïncide pas avec l'érémitisme, avec la situation d'ermite. Dans l'anachorèse, il y a possibilité de cohabitation à deux ou trois et de rattachement à une laure, et la URE, nous allons voir ça à un autre moment, c'est-à-dire à une sorte de village anachorétique. Et il y a des visites d'anachorètes entre eux. Et il y a aussi des anciens qui sont là pour conseiller, non pas pour diriger, mais pour, disons, tempérer les excentricités. Car le grand problème à cette époque-là de l'anachorèse et de l'érémitisme, c'était le déferlement de l'excentricité. Nous reviendrons sur ce problème. Donc les anachorètes ne sont pas des solitaires absolus, ils peuvent vivre à deux ou trois, ils se visitent entre eux, et puis de toute manière, en général, dans cette Égypte du 3e ou du 4e siècle, ils se réunissent, notamment le samedi, pour une sorte d'assemblée religieuse qu'on appelait la synaxe, S-Y-N-A-X-E, avec une liturgie commune. De là, nous pouvons inférer, disons, une certaine valeur métaphorique de l'anachorèse. L'anachorèse est fondée par un acte de rupture, une secousse de départ. Et il faut en général que l'éloignement du monde soit symbolisé par quelque chose. L'anachorèse, c'est d'abord une action, c'est comme une ligne, un seuil à franchir. Par exemple, si nous prenons un matériel que nous avons déjà trouvé, à savoir Robinson Crusoe. Bon, Robinson Crusoe est pratiquement en état d'anachorèse. Bien sûr, c'est pas lui qui l'a voulu, mais pratiquement, ce qui est mimé par l'aventure de Robinson Crusoe, c'est une anachorèse. C'est un éloignement radical du monde. Or, dans le cas de Robinson, il y a un arrachement au monde par le naufrage. C'est pas le naufrage de Robinson symbolise l'arrachement qui fait l'anachorèse, puisque en un moment, il n'a plus aucun compagnon autour de lui et ne surnage que trois chapeaux, un bonnet et deux souliers dépareillés. Bah, ce qui est vraiment l'acte même, le signe même de l'anachorèse. Et au bout de 13 jours, le navire qui était resté plus ou moins debout sur les récifs s'engloutit et à ce moment-là, tout pont est coupé avec le monde, et vous savez que le monde reviendra ensuite dans le roman, peu à peu, mais sous la forme de cannibale. On peut aussi imaginer, bien sûr, ce n'est qu'une case que je dessine, n'est-ce pas, le dossier serait infini à remplir, une anachorèse purement laïque, je dirais que ce serait celle de Spinoza à la fin de sa vie, quand on nous dit qu'il se retire dans un village, une localité près de La Haye, qui s'appelle peut-être encore, j'en sais rien, Vorburg, V-2-O-R-B-U-R-G. Spinoza avait d'abord voulu se retirer dans une pension, mais il s'est aperçu qu'il dépensait trop en pension. Et alors il a loué une chambre chez un particulier pour pouvoir manger à sa guise, c'est-à-dire acheter sa nourriture moins chère. On peut dire qu'à ce moment-là, c'était une vraie anachorèse, parce que justement, elle n'était pas d'une solitude rigoureuse. Spinoza descendait parfois discuter avec ses hôtes, et son biographe nous dit, il y vécut à sa fantaisie d'une manière fort retirée. On a dans cette phrase très simple, à la fois l'anachorèse, le retirement, et l'idiorythmie, il y vécut à sa fantaisie. Je pense que cette notion d'anachorèse doit être précisée pour trois raisons en ce qui nous concerne. Premièrement, du point de vue historique, c'est la matrice même de l'idiorythmie, puisqu'il y a là une petite structure à la fois collective ou micro-collective et individualiste, ce qui est l'orientation même de l'idiorythmie. Deuxièmement, l'anachorèse recouvre tout fantasme de retraite sobre. Pas le Spinoza à Vorburg, c'est une image pacifiante, c'est une image qui peut faire envie. Et par là, on comprend que l'anachorèse se dessine un peu comme une solution individualiste au problème du pouvoir. Je fuis, je nie le pouvoir, le monde et ses appareils. Je veux créer une structure de vie qui ne soit pas un appareil de vie. D'où l'acte symbolique de rupture, et par conséquent, anachorein, ça veut dire au fond refuser le pouvoir, objecter au pouvoir, ne serait-ce qu'aux autres en tant que pouvoir. Et troisième remarque, il peut y avoir une actualité de l'anachorèse laïque dans le monde actuel. Bon, le monde actuel est marqué, c'est extrêmement banal de le rappeler, par des formes de vie grégaires, aliénées, et par des formes très prégnantes du pouvoir. Par conséquent, les rêves, les fantasmes et même les actes d'éloignement sont logiques dans le monde actuel. Et on y trouverait d'ailleurs cette symbolique de l'arrachement dont j'ai parlé. Réaliser ses biens, par exemple, et acheter une ferme en Ardèche pour y élever des moutons. Ce thème est tellement banal aujourd'hui qu'il devient support d'arguments publicitaires. Il y a deux jours, j'ai vu à la télévision une publicité Gervais, n'est-ce pas, qui était une petite scénette, où le mari disait à sa femme, « Oh, partir à la campagne, etc., vendons tout, partons, achetons une ferme. » Pourquoi ? Parce que pour avoir des vaches, tout cela à partir du petit fromage Gervais. Donc, c'est un thème qui est très inséré actuellement dans la culture de masse, n'est-ce pas ? Aller vivre à la campagne, bon, ça fait partie du mythe bateau de la pollution, s'isoler, ne garder que quelques points de contact avec le monde et, disons, imaginer une sorte d'anachorèse équilibrée. Voilà pour l'anachorèse, qui est ainsi située, mais certes pas remplie. J'en viens maintenant, je poursuis toujours ma liste alphabétique, qui a au moins l'avantage d'introduire une certaine variété, à un thème qui est celui des animaux. Le hasard fait que, contigu dans la liste alphabétique, l'anachorèse et l'animalité ont un rapport thématique. Je vais essayer de mettre en ordre ce rapport à l'aide, disons, de deux mouvements inverses. Le premier conduit de la bête à l'homme, ou de l'animal à l'homme, et ça sera illustré par Robinson Crusoe. Le second, le mouvement inverse, conduit de l'homme à l'animal, et ce sont les formes diverses d'anachorèse religieuse dont je parlerai donc pour finir. Donc, premier mouvement, de l'animal à l'homme, c'est le cas de Robinson. Robinson, vous savez, part d'un état de nature. Quand il est jeté sur son île, il est presque dans un état de nature, puisque avant de récupérer certains objets sur le bateau, qui est échoué, il ne dispose que d'un couteau, d'une pipe, et d'un peu de tabac. Et c'est à partir de là, de cet état quasi naturel, qu'il va parcourir toutes les étapes de la culture. Il va commencer par dormir dans les arbres, comme les ancêtres de l'homme, puis il va réussir à se faire un radeau avec son couteau. De là, il pourra aller sur le bateau, récupérer des objets, il se construira une cabane, etc. Il progresse donc dans la voie de la culture jusqu'à devenir, vous le savez à la fin, gouverneur d'une île qui est fort peuplée. Alors, cette assomption de l'animal à l'homme s'accompagne d'un mouvement symétrique, bien entendu. Robinson part d'un état d'animalité, il est comme un animal, il traverse une espèce de course qui le conduit à l'humanité, et inversement, Il ne peut faire cela qu'en domestiquant l'animal. Il y a donc un chemin inverse qui fait que l'animal est domestiqué au fur et à mesure que Robinson est humanisé. Cela se fait à travers plusieurs épisodes qui sont extrêmement bien dessinés dans ce roman qui est extrêmement bien fait. La première étape, c'est nous voyons l'homme et l'animal à égalité. Robinson est tout d'un coup en face d'un chat sauvage. Il trouve devant lui, au début, un chat sauvage. Et il dit, et s'asseyant très calme, très insouciant, il me regarda en face comme s'il eût eu envie de lier connaissance avec moi. Donc voilà l'animal et l'homme qui sont absolument à égalité, face à face, et cette égalité est si parfaite que Robinson, stupidement, mais là déjà plus homme qu'animal, si je puis dire, met en joue le chat comme un ennemi homme. Et c'est devant l'indifférence absolue, l'impassibilité absolue du chat sauvage qui ne tire pas sur lui et qui lui donne un morceau de biscuit. Donc à ce moment-là, égalité totale de l'homme et de l'animal. Le deuxième épisode, c'est la domestication d'un chevreau que Robinson s'empresse d'abord d'estropier pour qu'il ne puisse pas fuir. Et là, on a le processus de la domestication. Si vous voulez, je vais y revenir dans un instant sous forme d'une digression. Ce chevreau s'apprivoise et Robinson, à ce moment-là, a l'idée, il conçoit, nous verrons que tout cela est très scientifique, il conçoit une domestication systématique d'animaux qu'il pourrait garder en réserve pour avoir des aliments, de la chair, quand il ne pourra plus chasser, c'est-à-dire quand il n'aura plus de poudre et de plomb. C'est le premier stade de la domestication. Je vais y revenir. Le troisième moment, qui est le deuxième stade de la domestication, c'est ce qu'on appelle scientifiquement l'anthropophilie. C'est le moment où l'animal est conçu, l'animal domestiqué, n'est-ce pas, est conçu comme devant vivre en commensal de l'homme. Il devient donc un substitut de l'homme. Il n'est plus une réserve de nourriture, mais il est un substitut de l'homme. D'abord, dans le cas de Robinson, un substitut de langage. Il y a naturellement dans Robinson un perroquet, c'est bien connu par les images. Robinson capture un perroquet, dit-il, pour lui apprendre à causer avec moi. Et il lui faut plusieurs années de dressage pour que, à la fin, le perroquet appelle Robinson, Robinson par son nom. Il lui dit Robinson. Ça, je crois que c'est assez intéressant parce que Robinson aurait pu apprendre n'importe quelle autre phrase, n'est-ce pas, au perroquet. Mais ce qu'il choisit de lui apprendre, c'est son nom, c'est-à-dire il lui donne le pouvoir au perroquet de l'interpeller, lui, Robinson. Autrement dit, il suscite un « tu ». Il suscite quelqu'un qui vous dise « tu ». On peut fétichiser un objet en personne, en Dieu, en termes d'interpellation. C'est pas, on peut dire « tu » à un objet, on peut dire « tu » à un fétiche. Par exemple, c'est le cas du perroquet d'un cœur simple de Flaubert. Mais il est impossible de se faire dire « tu » par un objet. On ne peut se faire dire « tu » ou bien que par un autre sujet, ou bien par un perroquet. Et c'est là le caractère irremplaçable du perroquet de Robinson. En recevant son propre nom, Robinson se maintient comme personne humaine, n'est-ce pas ? Et il simule le circuit même de l'affect, ou si vous voulez, de l'amour. Donc, premier substitut, un substitut de langage, aussi un substitut d'affect, puisqu'à un moment, Robinson recueille un cabri et il le nourrit, et il est dit que ce cabri devint si aimant, si gentil, si doux, qu'il fut dès lors un de mes serviteurs et que depuis, il ne voulut jamais m'abandonner. Donc, Robinson, ça traduit les formes principales du rapport de l'homme à l'animal, de l'accession à l'humanité, à travers un processus de pouvoir sur les choses, par les outils, et de pouvoir sur les animaux, par la domestication. Je crois que le dernier stade de cette hominisation est le plus intéressant, lorsque Robinson crée de l'affect avec du pouvoir sur le cabri. C'est parce qu'il Robinson domestique le cabri pour créer un terme affectif. Et ça, c'est vraiment le propre humain de créer, de penser, créer de l'affect avec du pouvoir. De se servir du pouvoir pour recevoir de l'affect. Je voudrais, si vous le permettez, si ça ne vous ennuie pas, sous forme de digression, revenir un peu sur ce phénomène anthropologique de la domestication animale, parce qu'il y a aussi une domestication des plantes. Et si je vais le faire, je vais le dire des choses que probablement certains d'entre vous connaissent très bien, mais je dirais, je m'abriterai derrière ce mot de Diderot, vous savez bien comme on aime à parler de ce qu'on vient d'apprendre. Or, comme je viens d'apprendre des choses sur la domestication, je vais vous les dire tout de suite. Et voici ce que j'ai appris. Disons que le processus de domestication des animaux par l'homme, qui est un processus anthropologique très important, se place dans la perspective de la sélection. Enfin, disons que l'homme est un substitut extrêmement actif de la sélection naturelle sur les races sauvages. Et cette sélection très active, cette sélection accélérée et dirigée sur quelques caractères utiles, c'est ça, la domestication. Il faut, dit-on, pour que certaines espèces soient domestiquées ou aient pu être domestiquées, il faut donc, dans ces races sauvages, une certaine prédisposition à ce que j'ai appelé l'anthropophilie, c'est-à-dire le fait de vivre en commensal avec l'homme. Il faut d'abord, chez certaines races vouées, donc destinées à la domestication, il faut ce qu'on appelle une capacité d'imprégnation, imprinting. Ça veut dire que le très jeune animal sauvage, au cours d'une expérience unique, s'attache à l'homme, dans un rapport de subordination-dominance qui est très vite fixé. Ça veut dire, si vous voulez, qu'un louveteau, par exemple, qui est capturé à la naissance et élevé par l'homme, se conduit comme un chien. Si la cohabitation avec l'homme a eu lieu immédiatement, dès la naissance, à ce moment-là, il se produit ce phénomène d'imprégnation qui dépend des premières heures de la vie et du premier regard. Et d'ailleurs, inversement, il paraît que si un jeune chiot vit libre les trois premiers mois de son existence, il devient définitivement sauvage. Donc, l'imprinting, l'imprégnation, c'est exactement ce qui se passe entre Robinson et le cabri. On peut dire qu'il y a imprégnation. Ce qui conduit l'imprégnation, c'est évidemment l'affect. Alors, il faut aussi une capacité de dressage, c'est-à-dire qu'il faut des races qui aient de bons réflexes conditionnés rapides. Il faut une capacité affective, comme on dit, et une capacité biologique à supporter la vie en captivité. La domestication a, paraît-il, suivi ou connu deux phases dans l'histoire de l'homme. La première phase correspond à pris naissance au paléolithique, c'est-à-dire au moment où les hommes étaient déjà chasseurs, et où ils ramenaient des animaux vivants, et où ils les gardaient comme réserve de viande fraîche. C'est exactement ce à quoi pense Robinson. Robinson, c'est vraiment un manuel d'anthropologie. C'est tout y est. Et à ce moment-là, ces chasseurs du paléolithique apprivoisaient les animaux sauvages, et si ces animaux sauvages pouvaient se reproduire en captivité, alors à ce moment-là, ils constituaient des réserves de viande. Et la deuxième phase, c'est lorsque l'homme a exercé une action précise de sélection, où il a effectué un tri génétique, où il a sélectionné des races pour un usage déterminé, n'est-ce pas ? Les races de boucherie, les races laitières, etc. Ce qu'il y a d'extraordinaire, enfin en tout cas ce qui moi m'ébahit toujours, c'est que on peut, les anthropologues et les paléontologues arrivent à dater tous ces phénomènes avec, semble-t-il, une précision extraordinaire, puisque c'est traduit en nombre d'années. Et on nous dit, par exemple, que le premier animal domestiqué par l'homme a été le chien, qui est venu de deux souches, le loup d'Europe et le loup d'Asie, et que cela s'est produit il y a 10 000 ans. Les chiens, là-bas, évidemment, ont modifié la stratégie de la chasse et ils ont favorisé l'apparition de l'élevage. Alors, à partir de cette première domestication, c'est cette liste qui m'enchante, on a une espèce de chronologie extrêmement précise de la domestication des animaux que nous connaissons bien. Donc, le chien, 10 000 ans, le mouton et la chèvre, 6 700 ans, c'est merveilleux, le porc, 6 500, le bœuf, 6 000, le cheval, 3 000, les volailles, la basse-cour, ça c'est beaucoup plus récent, c'est l'âge de bronze, paraît-il, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, parce que ça suppose une sédentarisation de l'homme. Et enfin, le dernier qui ait été domestiqué, je ne le savais vraiment pas, c'est le lapin, qui a été domestiqué seulement au 9e siècle après Jésus-Christ. Bah, c'est tout récent. Il y a 10 siècles, c'est tout. Et ce lapin est venu d'Afrique du Nord par l'Espagne. Elle a été l'objet d'abord d'une chasse sportive. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on ne savait pas très bien dans quelle catégorie le ranger. Et notamment, pendant le carême, on avait le droit de manger du lapin parce qu'il était assimilé à du poisson. Alors, évidemment, il y a, c'est un peu pour ça que je vous ai fait ce tableau assez banal de la domestication, c'est que, ben disons que la chose intéressante là-dedans, qui n'a aucun rapport avec le vivre ensemble d'ailleurs, c'est que on souligne maintenant qu'il y a un risque écologique, puisque l'époque est évidemment à l'inventaire des risques écologiques, quoi. À tout instant, il y a des dossiers de l'écran sur ces problèmes-là. Donc c'est un problème très brûlant auquel la culture de masse est extrêmement sensible. Or, il y a un risque écologique qui est le suivant. C'est que si on sélectionne trop des races domestiquées, ça veut dire qu'on en fait disparaître certaines. Et on mise tout sur certaines races. Les chiffres sont là, puisque j'ai appris qu'en France, en 1939, il n'y a pas longtemps, il y avait 21 races de bovins, et qu'en 1972, il n'y en a plus que 7. Donc, la sélection accroît le rendement des races sélectionnées, mais élimine certaines races. Et vous savez très bien que, par exemple, actuellement, l'âne est en voie de disparition. Ben, il n'y a plus d'âne. Et par conséquent, ces races très sélectionnées, qui sont donc peu nombreuses, si quelque désastre écologique quelconque, une épidémie, un cataclysme quelconque, touche ces races et les engloutit, il n'y a à ce moment-là aucune possibilité génétique de rechange. Et par conséquent, une famine possible pour le monde. C'est en cela que ce tri génétique forcené a quelque chose de dangereux. Et on peut dire, ou on a dit, que si le monde devenait un monde uniquement d'animaux domestiques, s'il n'y avait plus dans le monde que des animaux domestiques, ce qui semble se dessiner, eh bien, ce monde deviendrait d'une extrême fragilité. Donc, il faut des animaux sauvages. Voilà donc pour ce premier chemin qui va de l'animal à l'homme, dans le vivre ensemble dont Robinson a constitué la meilleure mise en scène. Et voici le chemin inverse que va nous permettre de suivre les anachorètes. Dans l'anachorèse religieuse, l'homme est aspiré, tenté, fasciné par l'animalité. Il est aspiré par l'animalité, et cela selon trois formes que je vais vous indiquer. Disons premièrement une forme neutre, conception selon laquelle les animaux représentent la nature dans sa neutralité, si vous voulez, ni bonne ni mauvaise. C'est la nature toute pure et la nature par opposition au monde humain. Par conséquent, l'anachorèse, qui est éloignement du monde humain, signifie logiquement retour littéral à la nature, c'est-à-dire à l'animalité. Soit pour prouver l'anachorèse, il faut retourner vers l'animalité. Et là, les exemples sont très fréquents, pas seulement dans l'anachorèse chrétienne, mais dans l'Inde brahmanique, il y avait des ermites forestiers, qu'on appelle en grec des ulobioi, des gens qui vivent dans les bois, et qui habitaient les forêts comme des animaux. C'est pas qu'ils se faisaient animaux en habitant là où habitent d'ordinaire les animaux, à savoir les bois et les forêts. Quant aux anachorètes chrétiens, surtout en Syrie, au IVe siècle, c'est en Syrie, vous savez, qu'il y a eu les formes les plus radicales, les plus originales et pour tout dire les plus dingues d'anachorèse. Eh bien, on recensait différents types d'anachorètes qui étaient en rapport étroit avec cette fascination de l'animalité. Il y avait, par exemple, les anachorètes qu'on appelait les brouteurs. Les brouteurs parce qu'ils ne vivaient que d'herbes, de racines, de salades et bien sûr aucun aliment cuit, ce qui est retour absolu à l'alimentation animale. Il y avait aussi les dendrites, n'est-ce pas, ceux qui habitaient dans les arbres, ceux qui nichaient dans les arbres, et ça c'est le cas, nous l'avons vu, de Robinson qui au début dort dans un arbre. Il y a aussi une copie absolument fade et moralisatrice du Robinson. C'est que Robinson Crusoe a connu beaucoup de... C'est un roman qui a eu un succès énorme. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'autres Robinson, des copies, des versions plus ou moins enfantines de Robinson. Il y a eu notamment le Robinson suisse, où la famille d'un pasteur suisse, échoué sur une île, se fait une maison dans les arbres, exactement comme les dendrites. Ça veut dire que dans ces cas-là, de vivre comme les animaux, on passe à être l'animal, comme s'il y avait une sorte de passage psychotique de la comparaison à la métaphore. L'anachorète est un animal, il ne vit pas comme un animal, il veut être un animal pour être dans la nature et loin du monde. Et on cite, vous savez que ces vies d'anachorète sont remplies d'anecdotes, de petites anecdotes, de petits traits de vie. Il y a par exemple un anachorète qui s'appelait, paraît-il, Asepsime, A-C-E-P-S-I-M-E, qui marchait à quatre pattes, hein, parce qu'il s'était fait mettre des chaînes de fer autour du cou, et il marchait à quatre pattes comme un animal, de telle sorte qu'un jour un berger l'a pris pour un loup et a failli le tuer à H-A-L-E-L-E, Talel, qu'il s'était fait construire une tournette d'écureuil. Et on le trouvait, quand on lui rendait visite, en boule, dans sa cage, les genoux au menton, occupé à lire les évangiles. Enfin, il s'était fait écureuil à la lettre, il était écureuil. Ça, c'est donc la première forme, c'est quand l'anachorète se fait animal dans la pensée que l'animal est l'expression toute pure de la nature. La seconde forme, bien sûr encore beaucoup plus connue, c'est la conception selon laquelle les animaux, ce sont les figures du mal. Alors là, le thème est tellement immense que vraiment je me contente de marquer la case. C'est le thème immense des démons figurés en animaux dans toute les hagiographies de saints, dans toute la littérature religieuse et naturellement dans toute la peinture et la sculpture qui en a suivi. C'est un thème essentiellement à l'origine antonin, n'est-ce pas, de saint Antoine, les démons entrant dans la cellule de saint Antoine pour le tenter et pour lui faire peur, des serpents, des lions, des ours, des léopards, des taureaux, des loups, des aspics, des scorpions, qu'on appelle les bêtes farouches. Et vous savez qu'il y a un foisonnement figuratif de toutes ces bêtes farouches dans la peinture. Alors ici, l'animalité, bien sûr, c'est l'infranature, c'est l'agression, c'est la peur, c'est l'appétit, c'est la chair, c'est l'homme sans loi, disons. C'est la figure de l'homme sans loi, sans la loi avec un grand L et au sens religieux. Alors là, je vous renvoie bien sûr, en tout cas pour ce qui est des travaux relativement récents, à la thèse de Gilbert Lascaux et aux travaux indignement méconnus de Beltrus Haïtis. La troisième forme, donc forme neutre, l'animal n'est ni bon ni mauvais. Forme mauvaise, l'animal c'est le mal. Forme heureuse, l'animal peut devenir la nature renversée, la nature rachetée. Et l'animal à ce moment-là est la voie de miracle. C'est-à-dire l'animal renverse sa nature d'animal. Toujours en rapport avec l'anachorèse. Par exemple, ce sont des lions qui ensevelissent un anachorète célèbre, Paul de Thèbes. C'est un lion, animal du désert, n'est-ce pas, qui apporte son dîner de date à Siméon. L'animal est en quelque sorte retourné, c'est-à-dire de méchant, il devient bon par une sorte de grâce qui émane de l'anachorète lui-même. C'est un thème très important qui existe sous une autre forme et même dans la littérature païenne. C'est ce que Curtius, dans son histoire de la littérature latine au Moyen-Âge, a inventorié sous le titre, le paragraphe concernant les impossibilia ou les adunata, c'est-à-dire les impossibilités. C'est une sorte de topos de la littérature antique et de la littérature du Moyen-Âge que de figurer l'idée que nous sommes dans un monde à l'envers, dans un monde renversé, en représentant l'association de choses incompatibles. Par exemple, le loup fuyant devant les moutons, ou l'âne jouant de la lyre. C'est ce thème des impossibilia est très important, et donc il représente bien l'animal renversé. Il y a d'ailleurs une forme adoucie du bon animal, c'est l'animal affectivement humanisé, comme le cabri de Robinson, et dans l'anachorèse religieuse, ça existe. Une habitude souvent attestée, c'est celle de l'ermite qui vit avec un animal familier, hein, qui a un animal familier avec lequel il vit. C'est un adoucissement de la solitude, en principe sans risque de péché. Mais attention, Saint Grégoire ermite, paraît-il, aimait trop sa chatte. Et il fut averti surnaturellement d'avoir à s'en détacher, mais c'est ça qui est merveilleux dans cet avertissement surnaturel et d'une précision et d'une subtilité extrême. Il fut averti d'avoir à se détacher de sa chatte, mais non pas à s'en séparer. Ce qui est beaucoup plus dur, n'est-ce pas ? C'est l'aporie typiquement amoureuse. Comment aimer un peu ? Comment aimer, comment ne pas aimer trop, comment aimer sans rompre et sans aimer trop. Eh bien, tout ça a été dans l'avertissement adressé à Saint Grégoire et sa chatte. Alors, ce que je veux dire pour terminer ce vocable, c'est que les rapports de l'animalité et de l'humanité sont évidemment, comme on dit, un thème très riche, mais il faut expliciter la métaphore, c'est un thème riche parce que c'est un thème circulaire, c'est-à-dire que l'animal peut occuper toutes les cases du paradigme. Enfin, on peut refaire un petit peu de, disons, de structuralisme facile comme on en faisait, enfin, en tout cas comme moi j'en faisais il y a 10 ans. C'est-à-dire, vous connaissez cette structure, vous avez un paradigme avec deux termes qui s'opposent, A et B, mais en fait, le binarisme se complique dans bien des cas, puisque vous avez une forme où vous avez à la fois A et B, c'est le terme complexe, hein, et une autre forme où vous n'avez ni A ni B, c'est la forme amorphe ou encore le degré zéro. Eh bien, vous avez toutes les oppositions, n'est-ce pas, ne peuvent pas être couvertes par ce paradigme étendu, hein, sans forcer les choses. Mais pour certaines, c'est évidemment un principe de classification et d'éclaircissement qui marche assez bien. Alors ici, vous avez exactement ça pour les rapports des animaux et de l'homme, où le rapport, vous avez l'animal peut être bon, pas, et c'est le cabri de Robinson, c'est la chatte de Saint-Grégoire, c'est l'animal domestiqué, etc. Pas. Mais
en face, l'animal est mauvais. Bon s'oppose à mauvais, ce sont les démons.
L'animal est bon et mauvais, c'est le cas des animaux retournés dont je viens de parler, dont l'animalité sauvage est vaincue. Et enfin,
vous avez l'animal, le degré zéro de l'animalité, quand l'animal n'est ni bon ni mauvais, il est donc neutre. Pas, c'est neutre, hein.
C'est quand l'animal n'est ni bon ni mauvais, qu'il est simplement une image de la nature, sans idée de valeur. Voilà pour les animaux. Je vais essayer de faire encore un trait qui va encore une fois, mais c'est le hasard de l'alphabet, nous ramener vers le monde grec. Je vais donner un certain nombre d'informations concernant l'Athos, le mont Athos. Et je groupe sous ce trait, Athos, l'essentiel de l'idiorhythmie religieuse, n'est-ce pas, puisqu'elle a été historiquement liée à l'Athos. Je vais essayer d'aller assez vite, tout au moins dans le débit, parce que c'est assez historique, mais en même temps, il me semble que ce sont des choses qu'il faut savoir pour peu à peu avancer dans cette exploration de l'idiorhythmie. Donc, quelques mots d'abord au niveau historique. Il y a, disons, que l'épisode exemplaire, le modèle formateur de la structure idiorhythmique, ça n'est pas, bien entendu, à l'Athos qu'on le trouve, c'est avant, c'est une fois de plus autour de la figure du personnage d'Antoine, de Saint-Antoine. Saint-Antoine, vous le savez, a été d'une part l'ermite absolu, absolument seul, au fond du désert ou de la montagne, et à ce titre-là, mais ermite absolu, il ne l'a été en fait que par période, car à d'autres périodes de sa vie, il a formé des ascètes qui se sont groupés autour de lui, autour d'une petite région qui s'appelait Pispire, P-I-S-P-I-R, Pispire, qui est un désert au sud d'Alexandrie. Et c'est à ce moment-là que, par ce groupement d'anachorètes autour d'Antoine, il y a eu ébauche d'une organisation idiorhythmique qui est connue, je vous rappelle. Chaque anachorète restait environ 5 jours seul, 5 jours par semaine seul, ou à la rigueur 2 ou 3 dans une cabane, mais en général sans se connaître et sans se parler, avec des pratiques religieuses tout à fait individuelles. Mais au bout de 5 jours, c'est-à-dire le samedi après-midi et le dimanche, ces anachorètes, qui n'habitaient pas très loin les uns des autres, se retrouvaient dans un centre. Un centre, c'est-à-dire là où il y avait une église, où il y avait une assemblée, qu'on appelait la Synax, je l'ai déjà dit, et ils profitaient de ce rassemblement hebdomadaire pour vendre les corbeilles et les nattes qu'ils avaient tressées au magasin et pour se refournir en fibres de palmier, en sel et en galettes. Ces anachorètes, ou ces structures d'anachorètes un peu disséminées, étaient sans chef. Il n'y avait pas de chef. À chaque instant, il faut souligner le rapport de l'anachorète au pouvoir. Il n'y avait pas de chef. Seulement un ancien, parfois, qui n'était pas un chef, mais qui était un modèle, disons, une espèce de gourou, comme le fut Antoine. Alors, l'Athos, c'est d'abord une dissémination d'ermitage. Et c'est donc le lieu de l'idiorhythmie naturelle et sauvage. Il faut ici dire par parenthèse que l'idiorhythmie naturelle et sauvage, par définition, historiquement, on n'en parle pas. On a très peu de témoignages sur les ermites et les idiots rythmiques, parce que l'historiographie va toujours aux institutions. C'est ça qu'elle recueille. Ce sont des institutions, ce ne sont pas des sujets individuels. Il y a donc, disons, d'emblée une contradiction épistémologique entre l'idiorythmie et l'historiographie. L'idiorythmie échappe à l'histoire, au témoignage historique. Mais ce qu'on sait tout de même, c'est que sur l'Athos, il y avait donc au d'abord des ermitages disséminés, mais comme toujours, mouvement constant, cet érémitisme, cette idiorythmie devient très vite socialement insupportable, elle devient insupportable à la société, et comme toute marginalité, elle est immanquablement récupérée au bout d'un certain temps par un pouvoir. Et ce qui se produit en 963, il y a 1000 ans environ, où saint Athanase fonde un grand couvent, le premier couvent cénobitique sur l'Athos. Et on date la fondation de l'Athos de 963. C'est pour ça qu'il y a donc quelques années, on a fêté, on a célébré le millénaire de l'Athos. Alors, dès lors, sur l'Athos, il va y avoir une sorte d'équilibre plus ou moins instable entre les cénobias, c'est-à-dire les couvents cénobitiques, les couvents de moines, surtout dans le nord de l'Athos, et le semi-anachorétisme idiorythmique, surtout dans le sud. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, ceci. Au XVe siècle, cette partie de ce que nous appelons aujourd'hui la Grèce tombe au pouvoir des Turcs et il s'établit une turcocratie. Et cette turcocratie, qui donc pèse sur l'Athos, entraîne un relâchement de la discipline et une généralisation de l'idiorythmie. Et cela jusqu'au XVIIe siècle, où les monastères principaux adoptent l'idiorythmie. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a le mont Athos, du point de vue religieux, est en décadence flagrante. Il y avait, paraît-il, 7000 moines en 1912. Il n'y en a plus aujourd'hui que 1500. Mais il y a tout de même 9 monastères idiorythmiques aujourd'hui, 8 grecs et un serbe, et les plus importants sont précisément des monastères idiorythmiques. Vous savez aussi que légalement, l'Athos, c'est une fédération de monastères qui est gouvernée par un conseil sous protectorat de la Grèce depuis 1912. C'est pourquoi, si on veut visiter le mont Athos, il faut une autorisation du gouvernement grec. En conclusion à ce petit aperçu historique, je voudrais dire que ce que nous remarquons déjà dans cette histoire, c'est quelque chose, je crois, d'important, c'est que l'idiorythmie, c'est ambivalent. Quelquefois, ça vise, ça pointe une ascèse très dure, très pure, très pauvre, et dans d'autres cas, une ascèse confortable, une ascèse libre et relâchée. C'est qu'en réalité, l'idiorythme, ce n'est pas une question de tension, mais une question de marginalité. Et il ne faut pas oublier que l'Athos, sur le plan des contenus religieux, a été un lieu de marginalité doctrinale dans la mesure où ça a été un lieu, disons, essentiellement d'expérience mystique, pas, où s'est développé un courant mystique, le courant des hésychastes, H-E-S-Y-C-H-A-S-T-E-S, qui est caractérisé par une pratique rythmée de la prière sur le souffle et sur le cœur. Enfin, nous reviendrons peut-être sur tout ça. Problème d'espace maintenant. Sur l'Athos nord, il y a des grands couvents, là où règne la forêt méditerranéenne. Sur l'Athos sud, qui est un espèce de désert rocheux, il y a des ermitages. Des ermitages. Et cela sous des formes variées. En disant en tout cas deux formes. La première, c'est celle des là où habitent ou ce type d'ermite qu'on appelle des kéliotes, K-E-2-L-I-O-T-E-S, c'est-à-dire qui habitent un kélion, une maison qui abrite quatre ou cinq frères sous la direction d'un ancien avec une chapelle. Et ces kéliotes vivent surtout du travail des champs. Et puis, il y a les loriotes. Il faut connaître tous ces noms-là si on s'intéresse à cette littérature. Loriote, ça vient d'un mot grec, laura, laora, lavra, qu'on traduit en français par lore. Une lore, c'est le nom générique des couvents de la Tosse. Mais la lore, la laura, recouvre des formes différentes. Une lore, ça peut être, dans certains cas, un cénobium, c'est-à-dire un couvent transitoire où les moines se préparent à la solitude pendant 3 ou 4 ans. Deuxièmement, ça peut être un agrégat d'environ 12 personnes. Et ici, nous retrouvons, n'est-ce pas, la proportion comme définition de la chose elle-même. C'est-à-dire que la lore, à ce moment-là, c'est plus que l'érémitisme strict, mais c'est moins que le monastère. C'est un érémitisme tempéré de cénobitisme, et cela rappelle, bien entendu, le seul ordre catholique qui a des rapports avec l'idiorythmie, et qui est l'ordre fondé par Saint Bruno, c'est-à-dire l'ordre des Chartreux. Et enfin, troisièmement, une laure, ça peut être une sorte de village monastique, une contiguïté d'idiorythmie. Alors aujourd'hui, la structure idiorythmique renvoie à des sortes de petits appartements avec chapelle privée, qui rappellent précisément l'organisation des Chartreux. Ceux qui habitent ces appartements dans ces lieux idiorythmiques gardent leurs biens. Ce sont des sortes de résidences, d'habitations presque bourgeoises d'anciens prélats, avec sinon du luxe, tout au moins un certain confort. Alors, sur ce problème d'espace, je conclurai en disant que, encore une fois, on remarque la labilité des formes, c'est le principe même de l'idiorythmie, et l'amplitude de cette souplesse porte d'abord sur la densité de concentration sur un espace géographique, n'est-ce pas ? Tantôt, les anachorètes sont finalement très près les uns les autres, tantôt, au contraire, ils sont très disséminés. Deuxièmement, le nombre des participants est assez variable, il va de 4 à 12. Et troisièmement, même l'habilité, même souplesse, disons, sur le standing, puisqu'on trouve à la fois une très grande pauvreté et une très grande aisance. Je n'ai pas fini avec le mont Athos, mais je vais tout de même arrêter ici parce qu'il fait très chaud. Et je continuerai donc, en principe, mercredi prochain.